Voilà pour mon dernier enseignement de cette retraite. C'est un enseignement attendu par plusieurs d'entre vous. Pour en avoir parlé avant le début de la semaine, à la fin de la quinzaine, où j'ai abordé ces pensées et cet aspect de que le moi, le je se construit. Et bien sûr qu'on a abordé ça de différents angles. Et j'aimerais aborder aujourd'hui ce qui s'intitule l'origine de la souffrance. Donc cet enseignement a trait à la deuxième noble vérité. Et puis Monica a mentionné les quatre nobles vérités. La plupart d'entre nous connaissons cet enseignement. Et on comprend bien que quelque part, c'est notre confusion, notre ignorance fondamentale qui nous fait percevoir les choses d'une certaine manière. Notamment la permanence du je, du moi, ou la possibilité d'avoir des satisfactions durables. Et donc, il y a toute cette dimension de confusion, d'ignorance, qui est naturellement la source de notre incompréhension ou de notre manière de méprendre la réalité. Et il y a un autre type de source qui est ce qui s'intitule Tanha, l'avidité. Et je vais citer le Bouddha pour commencer, parce que ça donne quelque part vraiment un certain poids, on va dire, à l'enseignement. Il dit à ses disciples de façon très claire, c'est comme ça que c'est intitulé, vous devez comprendre, chers méditants, et expérimenter pleinement pour vous-même comment votre vie est entrelacée et définie par dukkha. C'est-à-dire vos expériences mentales d'insatisfaction, de douleur, d'instabilité ou d'incertitude, dont chacune est ressentie comme souffrance dans votre esprit. Donc, ce terme de dukkha, qu'on généralement on définit comme étant souffrance, est beaucoup plus vaste que ceci en réalité. Dukkha, ça implique vraiment cette dimension d'insatisfaction, que quoi qu'on ait comme type d'existence, qu'on puisse avoir ce qu'on souhaite avoir, il y a quelque part, lorsqu'il y a de la confusion, hein, on est bien d'accord, lorsqu'on est justement dans une dimension de rapport à la vie qui est emplie d'ignorance, cet aspect de il manque toujours quelque chose. Et oui. Donc je crois que ce n'est pas personnel, hein. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut explorer à l'infini. Moi ça fait bien longtemps que j'ai commencé à pratiquer. Et c'est extraordinaire de percevoir ceci en action. Et c'est enrichissant en fait, de voir comment on peut se méprendre encore et encore. Donc ce sujet que j'aborde aujourd'hui est vraiment une référence fondamentale. On peut la contempler par la réflexion, mais on peut aussi, ici en retraite, naturellement l'explorer. Et c'est tout l'intérêt d'être en retraite d'instant en instant. Donc, encore le Bouddha, il dit, quelle est la noble vérité au sujet de l'origine de la souffrance? C'est l'avidité qui renouvelle l'existence, accompagnée du plaisir et de la convoitise, qui trouve toujours par-ci, par-là de nouvelles jouissances. En d'autres termes, la soif pour les désirs sensuels, la soif d'existence et la soif de non-existence. Mais quel est le terreau de cette avidité qui lui permet d'apparaître et même de s'épanouir partout où il y a une apparence de plaisir et de satisfaction? C'est là qu'elle surgit et prospère. Partout, il y a une apparence de satisfaction. Voici quelle est la noble vérité de l'origine de la souffrance. Telle fut la vision, révélation, sagesse, connaissance et lumière qui s'éleva en moi au sujet de choses jusqu'alors inexprimées. Cette noble vérité doit être pénétrée par l'abandon de l'origine de la souffrance. Telle fut la vision, révélation, sagesse, connaissance et lumière qui s'éleva en moi au sujet des choses jusqu'alors inexprimées. Donc on comprend bien que, quelque part, c'est au contact, en voyant cette avidité prospérer, s'épanouir, comme il dit, qu'on va pouvoir commencer à la pénétrer. Et non seulement la pénétrer, mais l'abandonner. Donc toute l'idée là, c'est d'abandonner cette dimension au contact de l'avidité. Et donc on comprend bien, c'est vraiment un sujet extrêmement parlant et qui se répète manifestement au fil de nos rencontres avec nos expériences, ici ou ailleurs. Hein. Donc on demande au Bouddha, dans ce sutra, mais où cette soif prend-elle racine ? Partout où dans le monde il y a des choses délicieuses et agréables. Là, cette soif peut surgir et s'enraciner. Les objets visuels, les sons, les odeurs, les goûts, les impressions corporelles et les objets de l'esprit sont parfois délicieux et agréables. C'est là que naît et prend racine cette appétence. Voilà, donc cette dimension, il y a différents éléments là. Hein. Le terme en pali est tanha. Et tanha veut littéralement dire soif. Et c'est très bien choisi parce que cette soif, ben, ce n'est pas qu'on boit une fois puis après on est satisfait. On a constamment besoin hein, de réalimenter notre corps. Donc ce terme de soif implique une attirance irrésistible. Une manière que ce désir, et souvent on parle du terme de désir-attachement, qui est quelque part insatiable. C'est-à-dire que ça va naturellement, lorsque on laisse ceci prospérer, conduire, et il dit bien ce terme, à l'esclavage. Et que quelque part on est esclave de nos sens. Donc, c'est l'esclavage, l'emprise totale du monde des sens sur notre esprit, tant qu'on n'y voit pas clair. Ça vous parle? Certainement. Donc, si on se dit non, non, pas moi, non, moi, je n'ai pas du tout ça. Bon, ben, écoutez, hein, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, si on regarde un peu à l'extérieur quand même, hein, on peut l'avoir à l'œuvre à tant de niveaux, social, mondial. Voilà. S'il ne s'agit pas de nous, ben, il s'agit bien de constater que ce monde est bien trouble et troublé de par cette avidité qui parcourt. Donc, pourquoi les gens ont-ils envie de biens matériels, même lorsqu'on a atteint un certain niveau de prospérité et qu'on a peut-être suffisamment de nourriture, un logement décent, des vêtements, et qu'on doive constamment continuer d'aller dans le sens de nourrir cette avidité. C'est intéressant. Et quand on se pose cette question, on se dit, ben ouais, c'est incroyable, c'est quelque part cette soif qui est à l'œuvre, mais qu'on ne perçoit pas. Donc il y a naturellement là une disposition qui fait que lorsqu'on est devant une petite vitrine, et puis qu'il y a un joli habit qui peut attirer notre attention, on ne se dit pas, ah mais oui, tiens, ça c'est la soif d'existence, la soif d'avoir un joli habit. Une petite robe ou...
Il y a
le Dalai Lama, c'est intéressant. Tout à coup, me vient cette histoire. Et puis, il est là, il est, je crois, aux États-Unis. Oui, je crois qu'il est dans une grande ville, New York. Et puis, il est dans une voiture. Et puis, ça n'allait pas assez vite. Et puis, voilà que il est dans la rue où il y a toutes les vitrines et tous les magasins de technologie et autres. Ça fait des années de ça. Hein. Donc, c'était bien le début du high-tech à New York. Et puis il était là, puis il disait, ah, je regardais à travers ça, puis je voulais absolument tout, tous ces objets, sans même savoir ce qu'ils étaient. Donc ça implique, il y a vraiment, moi je trouve que ça nous rend humbles en fait, quand il raconte quelque chose comme ça, puis qu'il rigole forcément, il dit, ben voilà, c'est ça qui meut un peu l'existence, donc cette soif pour le plaisir des sens. Donc, chercher la chose la plus évidente qui va nous donner un sentiment de satisfaction. On a chacun hein, nos favoris. C'est clair que quelque chose va satisfaire une personne et pas une autre. On est bien d'accord. Et cette satisfaction va durer peut-être un temps, puis elle va pas nous satisfaire pour bien longtemps. Alors la soif se perpétue. Elle est illimitée. Elle est incroyablement illimitée et infinie. La satisfaction des désirs est finie. Combien de temps sommes-nous satisfaits par rapport à assouvir cette soif, un objet, et puis il nous en faut un autre, encore un autre. Hein? Mais c'est exactement ça qui est décrit dans l'enseignement. Donc une sorte de comportement compulsif, une manie de vouloir obtenir, collectionner, toujours une chose de plus à avoir. Et bien sûr que ça se perpétue dans différents domaines. Il y a aussi le domaine des connaissances. Il y a le domaine de l'ambition spirituelle. Il y a le domaine de la perfection. Il y a le domaine de l'apparence par rapport à comment on n'existe dans ce monde en relation aux autres. Donc, quelque part, ça peut toucher vraiment beaucoup de choses. Et on a vraiment à cœur d'explorer où pour nous, pour chacun, chacune d'entre nous, ben, ceci est parlant. Quand il y a soif, quand il y a vraiment un désir, là, c'est quelque part une dimension où il y a un peu d'obsession. Donc, lié à Tanha, à la soif, il y a cet autre état mental qui s'appelle Upadana et qui est l'agrippement, l'attachement. Voilà pourquoi on parle très souvent de désir et d'attachement. Donc, Upadana, c'est ce qui vient ensuite. Ce qu'on a désiré, on l'obtient et on s'y agrippe. Et du coup, c'est ça la saisie. Quelque part, on ne lâche pas. Donc, les deux sont dukkha, c'est-à-dire que les deux sont douloureux lorsqu'ils sont présents, parce qu'ils sont accompagnés de contractions, de tensions. Il y a vraiment cette extraordinaire capacité, parce qu'on est vraiment en contact, et qu'on perçoit beaucoup plus profondément notre existence que d'habitude, on sent la dimension de dukkha, donc d'insatisfaction, du stress que ça cause par rapport à devoir constamment satisfaire nos désirs, nos convoitises, notre avidité. Quand on commence à sentir l'oppression de ceci, vraiment la dimension stressante et combien elle est incontrôlable si on n'a pas été instruit. C'est exactement comme ceci que parle le Bouddha. Hein. Nous, on est instruit maintenant. Hein. Ça fait un petit moment qu'on est là, donc on n'est pas. Il parle de personnes instruites et non instruites. Hein. Donc nous sommes instruits, du coup, nous pouvons vraiment sentir cette façon incontrôlable qu'elle a soif de pouvoir nous mener par le petit bout du nez. Toujours désiré. Donc, il y a Tanha et Upadana. Donc, dans cette chaîne de causes et conditions, il y a le contact, il y a naturellement la sensation agréable, désagréable ou neutre, la perception, et c'est à la sensation et la perception auquel s'accroche quelque part la soif et ensuite l'agrippement. Donc c'est de cause et condition et ceci se perpétue d'instant en instant. Il y a bien sûr aussi l'absence. Quand il y a de la présence, quand il y a vraiment cette disposition d'esprit qui peut accueillir et la pleine conscience et tout ce qu'on explore ici, eh bien il y a des moments où il y a une absence de cette soif, d'où le soulagement. D'où vraiment, oh, il y a juste une capacité de pouvoir non plus être soumis, mais vraiment être plus libre. Donc ça se passe au présent. Ce n'est pas dans un futur lointain qu'on va se dire « Ah, mais peut-être un jour, je vais pouvoir prouver ceci. » On sent tout à fait, quelque part, le non-agrippement. Donc dans un sens, si vous voulez, on pratique, et on peut tout à fait dire qu'on pratique le non-attachement ou la non-saisie. D'instant en instant, nous pratiquons au contact du monde, au contact de ce qu'on ressent intérieurement, la non-saisie et le non-attachement. Et j'imagine que pour vous, en tout cas pour moi c'est clair, et que pour vous, vous ressentez la différence. Quand il y a eu un moment de saisie, et c'est peut-être même après coup qu'on a vraiment quelque part élaboré une longue histoire au sujet de ce qu'on aimerait, et que tout à coup, waouh, ça lâche, waouh. Combien ça fait du bien. Donc il y a naturellement là une qualité de pouvoir prendre conscience de la différence et de discerner ceci, et du soulagement qui provient de la non-saisie. Maintenant, c'est vraiment évident que dans cet enseignement, on a plusieurs types de désirs. Parce qu'on se dit, bon, alors il ne faut plus que je désire. Pas du tout. Non, Tanha, c'est vraiment un type de désir, justement compulsif et avide, qui n'a rien à voir avec un autre type de désir, qui s'appelle Chanda, et qui est un désir de pouvoir accomplir le bien, par exemple. Quand on pratique metta et qu'on souhaite du bien aux autres ou à soi-même, c'est tout à fait judicieux. Donc le désir d'être généreux, d'accomplir des actions bénéfiques, ou même de comprendre l'origine de la souffrance, comme on est là. Donc là, c'est une aspiration. C'est une dimension de nourrir une intention qui est complètement bénéfique et qui fait qu'on va dans le sens de plus grande liberté. Donc c'est important de discerner le type de désir qui nous habite et qui naturellement va prendre forme. D'où la dimension d'intégrer l'intention. Avant chaque action, avant chaque type d'expérience, on peut dire, mais d'où émerge ce désir? Dans quel but? Et de joindre l'intention justement à l'action pour naturellement un objectif qui va dans le sens de liberté. Donc tout ceci est relié. Qu'il y a une certaine compréhension qui nous fait aller dans le sens de liberté et de paix intérieure. Il y a aussi des désirs qui sont des désirs complètement neutres. Le désir, par exemple, de satisfaire des besoins fondamentaux, comme de manger quand on a faim, par exemple, ou de dormir quand on a sommeil. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des différents types de manifestations et d'expressions et d'expériences qu'on peut commencer à vraiment discerner, et c'est l'investigation qu'on fait dans notre méditation. Donc vous comprenez bien que Tanha a une nature, une caractéristique très spécifique au niveau d'un état d'esprit. Très spécifique. Donc, Tanha et Upadana fonctionnent généralement ensemble. On désire, on obtient, on s'agrippe. L'image qui est souvent employée, c'est dans l'esprit, avoir un point qui est fermé. Hein, donc, si j'ai un point qui est fermé, vous êtes d'accord que ça fait mal. Hein, j'ai de la contraction dans ce point. D'accord? Donc, ça, c'est ça, Tanha Upadana. C'est je m'agrippe. Et puis, la forme de désir, inspiration ou de souhait, bien, c'est une main qui est ouverte. Je veux dire, où c'est fluide, ça passe, il n'y a pas vraiment de contraction. Hein? Donc, je dis tous ces mots parce qu'il y a des gens dans l'autre salle. Donc, je pourrais très bien montrer que l'image, mais il y a vraiment une différence dans le ressenti. Donc, il utilise beaucoup d'images, le Bouddha, pour parler de ceci. L'Inde ancienne était une société très ritualisée et en tant que brahmane dans l'Inde antique, eh bien, il y avait des rituels envers les dieux et les déesses. Et vraiment, on croyait, et on avait même la profonde croyance qu'on pouvait, que les dieux et déesses contrôlaient notre destin, hein, le destin des hommes. Et puis, il y avait naturellement là des offrandes qui étaient faites aux dieux et aux déesses. Et donc, dans chaque maison, il y avait trois feux sacrificiels qui devaient toujours alimenter dans le temple, proche du village, et puis souvent des bougies dans une maison, pour qu'il y ait au moins un feu allumé tout le temps. Et si vous voulez, l'acte de ravitailler, d'alimenter le feu, pour qu'on soit sûr qu'il ne s'éteigne pas, était appelé en sanskrit upadana. C'est exactement ce terme de upadana qui est clinging en anglais, qui fait que on alimente continuellement un feu en y déposant du bois. Donc voilà l'exemple, et c'est de cet exemple que le Bouddha a utilisé ce terme pour ce le fait de toujours ajouter du combustible, alimenter l'esprit ou upadana, par conséquent, c'est comment on alimente ce processus. Et donc, il y a trois formes. Il y a trois formes. Il y a naturellement cette soif des plaisirs des sens. Et ça, c'est clair que il n'y a pas de fin au plaisir des sens, surtout quand ils sont agréables. Il y a la soif d'existence, c'est le deuxième. Et la troisième, c'est la soif de non-existence. Donc ça a à voir avec le moi, le je. Ces deux dernières formes sont certes plus subtiles. Donc on oriente l'attention sur l'expérience. Vous avez peut-être eu hein, ici des moments où c'était tellement bon ce qu'on avait à manger. Hein. Pas plus tard qu'à midi, là. Moi, je connais quelqu'un hein, qui a été tellement séduit par le bol de dalle qu'il a fait un long chemin pour aller chercher encore quelques cuillères de dalle. Oh, mais il est trop bon ce dalle. Oui, il est bon. Oh non, mais il y en a encore! Et il y en avait encore. Et donc, non seulement il est revenu avec son bol à lui, mais il y a d'autres personnes autour de la table qui disaient, oh, mais s'il y en a encore, on en prendrait bien aussi. Et puis, du coup, voilà, on s'est satisfait. C'est un tout petit exemple, mais c'est vraiment de ces petits exemples qu'on peut parler, où on se dit, tiens, mais voilà, on avait certainement bien assez à manger et c'est ça, c'est Tanha. On avait envie encore d'en avoir, d'en goûter. Donc vous voyez que là, dans ce processus, c'est exactement l'enseignement dont je parle. Ce qui implique qu'il y a un enseignement là, c'est que on est très projeté à obtenir l'objet convoité, notamment ici le bol de dalle, la bonne nourriture. D'accord ? Ou bien ça peut être, là on se réjouit, en tout cas moi je me réjouis de pouvoir écouter un beau morceau de musique. Mmh. On était assez privés de la musique. C'est magnifique le silence, hein, mais il y a des moments aussi où j'apprécie bien la musique classique et je me dis, oh waouh, voilà. Donc l'objet convoité, qu'est-ce que je vais écouter en premier? Et puis, voilà ce qui se passe. Et c'est évident que le sujet là fait qu'on se perd et qu'on alimente, voilà, la cause pour laquelle on est dans un désir attachement, c'est-à-dire l'objet. Quel est l'objet qui va nourrir ceci? Alors je prends des exemples simples parce que c'est vrai qu'en retraite on cherche à être simple. Et donc ce qui implique que quelque part on perd de vue l'état d'esprit qui désire, c'est-à-dire le désir lui-même, l'avidité elle-même. Et ça devient beaucoup plus complexe dans notre vie à vouloir des expériences plaisantes et à essayer aussi de se débarrasser d'expériences non plaisantes, parce que ceci fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est le désir attachement pour le plaisant et désir attachement pour se débarrasser du désagréable. Donc tout l'intérêt ici, c'est de tourner l'attention, et vraiment tourner l'attention, c'est-à-dire pas sur ce sur quoi je projette mon désir, l'objet, pour contempler l'état d'esprit, c'est-à-dire comment c'est de désirer. Comment c'est d'être attaché? Comment c'est? Donc l'objet de la méditation à ce moment-là devient le désir lui-même. Comprenez ceci? Hein? C'est très clair. Hein? Mais à ce moment-là, on peut se rendre compte déjà qu'il y a une chose qui est absolument géniale, c'est que quelque part il y a un décrochement d'être tellement tendu à vouloir trouver et acquérir ce sur quoi mon intérêt s'est posé, et de commencer à pouvoir se rendre compte que le désir lui-même, eh bien, c'est un état mental qu'on peut contempler de façon à pouvoir percevoir que ça ne perdure pas, qu'il y a là, dans cette contemplation, dans cette relation. Et ça, c'est extraordinaire quand ça dit « Ah, mais j'ai même pas satisfait ce désir !» Et puis, en fait, il n'est plus là. Et ça peut arriver. Et surtout en retraite. Parce que on a quand même quelques restrictions. Notamment, comme me disait une méditante l'autre jour, j'ai l'habitude d'avoir mon petit carré de chocolat tous les jours à la maison. Ben là, j'ai pas pris ma plaque de chocolat. Et du coup, bah, je perçois que voilà, il y a le désir. Et peut-être que la prochaine fois, si je fais une retraite, bah, je viendrai avec mes plaques. Et là, l'autre méditante lui a dit, puis tu mangeras toute la plaque en 5 minutes. T'es 19 carrés plutôt qu'un carré par jour. Mais c'est tellement ça. Je veux dire, tout à coup, c'est que, oulala, c'est là. Et puis, où va s'arrêter? Où va s'arrêter le besoin de satisfaire? Et souvent, on s'arrête un peu tard. Hein? Un peu tard. On s'est englouti toute la plaque. Puis après, ben, on vit les conséquences. Donc, on a vraiment cette extraordinaire capacité de pouvoir réaliser au niveau des plaisirs sensoriels, eh bien, il n'y a pas de limite si on n'y met pas une limite. Et ce n'est pas « je ne devrais pas », c'est au contraire explorer ceci. Moi, je trouve ça tellement plus intéressant de pouvoir voir « non, mais comment ça fonctionne cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Plutôt que de simplement la forme où on évite à tout prix les conditions qui peuvent faire surgir ceci. C'est un vrai boulot de pouvoir contempler ça. Et donc, les pensées se répètent. Hein. Il y a aussi bien sûr des pensées qui se répètent autour de ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on n'a pas, ce qui pourrait être, etc. Et puis, de percevoir que tous ces fantasmes, eh bien, créent de la souffrance. L'origine de la souffrance, de la douleur, est souvent parce qu'on se perd dans ses rêveries, on se perd dans ces objets convoités. Donc, il y a là, de la part du Bouddha, une invitation ensuite à voir une certaine retenue. Dire, ah non, mais je choisis là de ne pas satisfaire ce désir et de percevoir qu'est-ce qui se passe. Donc le renoncement est un parami, c'est-à-dire que c'est une qualité positive. C'est génial d'entendre la pluie, non ? On ferait toute cette sécheresse. Waouh, un régal. Waouh, cadeau du ciel. Voilà, donc ceci peut se porter bien sûr sur des petites choses ici comme en retraite, mais on peut naturellement aussi avoir cette contemplation par rapport à la maison de rêve, comment on va la construire, et puis tout ce qu'on peut imaginer, et puis ensuite, ben, il y a la réalité. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible par rapport à cette maison? Ou l'autre jour, comme disait, voilà, j'ai rêvé, je cherche un nouveau boulot, forcément qu'il est à 5 minutes de chez moi, il n'y a que des collègues super sympas, l'horaire que j'aimerais, aucun désagrément. Et c'est ça, c'est qu'on fantasme autour de quelque chose qui n'est pas très réaliste. Donc, on commence à prendre conscience que ceci même est dukkha, que ça crée des tensions, si il n'y a pas l'obtention de ce type de boulot. Mais je vous le souhaite, hein, le boulot de rêve, peut-être qu'il existe, moi je n'en ai jamais vraiment trouvé, mais même s'il existe, il y a quelque chose d'un élément qui change, la collègue la plus sympa qui s'en va, du coup, il y a un remaniement. Donc on perçoit bien, parce qu'il y a l'impermanence, hein, que ça se modifie et que l'existence, eh bien, on l'accueille comme elle vient. Donc quand nous pratiquons, il y a une réelle motivation à vraiment contempler, explorer et se mettre en présence de façon plus profonde, donc on approfondit quelque part cette origine et de sentir où la cause de dukkha et comment on peut aller dans le sens d'un soulagement, de la non-saisie et quelque part, et à un moment donné où ça lâche, et puis de pouvoir contempler aussi le bienfait quand on s'ajuste et puis que quelque part ça va dans le sens de notre vie telle qu'elle est, telle qu'elle se manifeste. Donc il y a trois feux, hein, qui proviennent quelque part de ce Tanha, et puis ils sont manifestement exprimés. Après, il a dit qu'est-ce que ça va alimenter, ce Tanha, cette soif. Eh bien, c'est ce qu'on connaît bien et dont on parle toujours, c'est le désir attachement, l'aversion et la confusion. D'accord ? Donc, avidité, aversion et confusion naissent de la soif. C'est vraiment les trois types d'états mentaux qui émergent de la cause, et la cause, c'est cette soif. La soif du devenir, qu'on appelle bhava tanha, est liée au sentiment du moi, du je. C'est exactement le même processus, simplement que ça se positionne par rapport à se rêver parfaitement. Avoir un sentiment, quelque part, de soif d'existence pour être parfaite ou pour être parfait. Et c'est exactement ceci qui est créé, élaboré au contact d'un esprit narratif. Donc c'est vraiment dans le narratif que ceci se passe. Et ça vient très clair quand nous nous efforçons d'alimenter cette soif au moyen de ne pas nous accueillir tel que nous sommes, mais tel comme on aimerait qu'on soit. Donc il y a un modèle, de perfection, un modèle du devenir, ce que je pourrais devenir, ce que je pourrais être, et qui rend notre existence ici et maintenant extrêmement difficile. Alors, comme je l'ai dit, ça peut se passer dans la manière d'apparaître, et c'est tout à fait parlant dans le sens de comment on apparaît au monde, la manière de se vêtir, la manière de parler, la manière de se présenter, la manière dont on cumule des connaissances pour être intelligent. Et donc là, il y a vraiment toute une construction que cette soif va se perpétuer dans ce qu'on a cité l'autre jour, qu'est l'orgueil. L'orgueil de supériorité ou l'orgueil d'infériorité, la vanité. Tout ça est lié, vous voyez ? C'est vraiment extrêmement clair qu'on peut se prendre la tête par rapport à ce qu'on devrait être, qu'on n'est pas, et puis sentir la difficulté. Donc, il y a une dimension là d'ego, et dans le sens d'une soif de devenir, c'est vraiment quelque part la dimension d'ambition. Et cette ambition, elle peut naturellement émerger dans différents types de registres de domaines. Et notamment, et c'est très intéressant, dans un sutra où il y a quelque part un disciple qui semble présenter une soif d'existence quant à l'ambition spirituelle. C'est quand que je serai éveillé, atteindre le nirvana, voyez ? Et donc, le méditant modèle. Donc, tout ceci va être nourri par notre imaginaire. Tout ce qu'on va pouvoir, quelque part, explorer au contact de cette force du devenir, passer du temps à rêver, et il y a une soif d'existence. Il y a un désir attachement à être, d'une certaine manière. Et naturellement, il peut y avoir aussi ces mouvements qui vont se loger dans les émotions, donc pensées, émotions. Donc cette soif du devenir, c'est cette position d'être aussi préoccupé par l'avenir, qui on est aussi aux yeux des autres. Enfin, tout ça s'impose un mode qui va aussi être très douloureux. Puis ensuite, on a la force contraire, mais qui est exactement le même mouvement, simplement que on en a tellement assez de devoir devenir quelqu'un, c'est épuisant de vouloir être autre ou parfait ou intelligent ou je ne sais, où vous portez votre soif d'existence, qu'il y a le mouvement inverse, on est épuisé d'être, du coup on ne veut plus être. Et c'est la soif de non-existence. La fatigue, l'épuisement, qui fait que c'est le mouvement contraire qui s'intitule Vibhava Tanha. Donc Bhava Tanha, c'est soif d'être, Bhava c'est l'être, et soif de non-être. Et c'est aussi dit qu'il est très clair que c'est, dans un certain aspect, c'est exactement comme ceci qu'on veut se débarrasser du désagréable. Et qu'on repousse toute cette dimension de ce qui peut apparaître comme désagréable quand on ressent du désagrément et qu'on a cessé le besoin de devenir, eh bien, on va naturellement vouloir se débarrasser de cette dimension de vouloir devenir. Donc, c'est le mouvement contraire, mais c'est tout aussi contraignant. Quand on est désabusé quelque part, d'essayer de devenir quelque chose, il y a le désir de se débarrasser de cette chose. Et c'est aussi contraignant et un manque de liberté. Donc il y a une tension dans ces deux extrêmes. Et le Bouddha est très clair. Il a dit, ni l'obsession d'un côté, parce qu'on est vite absolument tout extrême, ni l'obsession d'être d'un côté, ni le nihilisme. Donc il ne s'agit pas de la négation de l'être. Donc ces deux extrêmes sont équivalents et sont tout autant douloureux l'un que l'autre. Donc on évite ces deux extrêmes, ce qui implique qu'il s'agit de la voie du milieu à nouveau, et ici on peut être très, très clair quant à la voie du milieu, simplement être, être existant, être dans notre intériorité, être au contact, être tout simplement dans une disposition où ces formes de tanha, c'est-à-dire de désir attachement, obsession, compulsion et refoulement, dénigrement, bah, sont tout simplement pas présents. Il y a plein de moments où, enfin j'espère, pour vous, en tout cas, que ceci n'est pas là. Et je suis sûre que oui, parce que ce serait vraiment insupportable si c'était constant, vous rendez compte, hein? Wow. Donc, on ne peut pas, quelque part, séparer ces trois formes, si vous voulez, de tanha ou d'avidité. Ce sont, quelque part, trois aspects de la même tendance. Hein? Compulsion, que ce soit les plaisirs des sens, beaucoup plus évident à voir, à percevoir, mais il y a naturellement là une disposition, on les perçoit sous différentes facettes, mais c'est la même origine. Construire un moi, vouloir s'en débarrasser, ou s'agripper au plaisir des sens. Donc comment les contempler? Ben exactement ce qu'on fait ici, hein. C'est la troisième noble vérité, en vivant chaque moment pleinement, en ayant à cœur de nourrir le dharma, c'est-à-dire toutes ces qualités qu'on développe, et puis de voir à travers ces voiles. Parce qu'il ne s'agit pas de se débarrasser de quoi que ce soit. C'est vraiment la vision pénétrante. C'est-à-dire qu'on voit clairement à travers ces voiles. Ils sont percés, et c'est le terme de vipassana. C'est vraiment, quelque part, waouh, en étant très clair de comment se construit une avidité, comment elle peut lâcher, et donc très tranquillement, on est dans une autre disposition et on va nourrir le non-attachement. Donc, c'est pas qu'il n'y a rien à la place. Hein. Il y a vraiment tout un être, toute une existence qui fait qu'on grandit et qu'on va naturellement, ici, être de plus en plus libre par rapport à ce que pense une autre personne de soi, tout ce qu'on peut projeter. Oh mon Dieu, voilà. Comment je suis vue là, comment je suis reconnue ou je ne suis pas reconnue. Tout ceci va vraiment être beaucoup plus libre et on va se sentir, comme j'aime bien le dire, plus spacieux. Donc ça, c'est le cœur du Dharma, de sentir beaucoup plus libre dans notre manière de pouvoir nourrir notre existence. Le Bouddha dit clairement, ce que nous nourrissons, va grandir. Ce qu'on nourrit grandit. Si on nourrit constamment l'attachement, si on nourrit constamment l'avidité, la colère, eh bien c'est ça avec lequel on vit. Si on nourrit le non-attachement, la bienveillance, la présence, ben c'est exactement ceci avec lequel on vit. De plus en plus, un tout petit peu plus et un tout petit peu plus et encore un tout petit peu plus. Voilà, donc il s'agit pas du tout d'encourager le fait de devoir se débarrasser de quoi que ce soit, même pas de la vie, c'est de la voir clairement et de ne pas l'agir, pour simplement prendre conscience. Si on se dit, ouais, faut vraiment que je me débarrasse de tous mes désirs maintenant, eh bien, alors je deviendrai le parfait méditant. Vous voyez, c'est exactement ça qu'on se dit. Hein. C'est incroyable, mais ça n'a aucun sens. Et puis ça va te perdre en plus. Se débarrasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, rejet. Donc, ce n'est pas du tout ça, c'est du discernement qu'on éclaire. C'est vraiment ce qu'on contemple. Ce n'est pas, je veux éradiquer toutes mes soifs. Donc voilà, on a chacun plus une tendance qu'une autre, hein. Il y a peut-être plus, un petit peu plus de soif d'existence ou un petit peu plus de soif de non-existence. Et c'est intéressant le matin, justement, quand on se lève et puis qu'on se dit, j'ai pas du tout envie de sortir du lit, là, il faut se pousser. Et puis on dit, ah, mais peut-être qu'il y a tout petit peu de soif de non-existence là. Ouais, montrer, c'est fascinant. Donc, il se peut qu'il y ait juste de la fatigue. Hein. Mais voilà, on va explorer ceci. Et ça peut se manifester de tellement de manières, dans tellement d'endroits, dans tellement de coins et recoins, tellement de situations. Voilà, je vais terminer avec un Udana. Udana, c'est une exclamation de la part du Bouddha qui dit comme des papillons de nuit attirés par les flammes. Alors, il y a un jour, le Bouddha demeure dans la grotte de Jetta, c'est là où il était dans beaucoup de sutras, situé dans le jardin de Anathapindika. Anathapindika, c'est un bienfaiteur qui lui a vraiment procuré beaucoup de bien et qui l'a beaucoup aidé matériellement. Et donc, il était dans cet endroit, cette grotte, et il méditait en plein air. Et des lampes à huile brûlaient, car c'était une nuit sombre et la période pendant laquelle volaient beaucoup de papillons de nuit qui tombaient dans les lampes à huile, rencontrant la misère et allant à leur fin. Chut, on voit bien ça, hein? Wow. Il y a un mois, c'était incroyable combien je les voyais. Du coup, j'ai éteint la bougie. Et cette vision inspira le Bouddha et il fit une exclamation, un Udana. Ils se précipitent et vont trop loin. Ils passent à côté de l'essentiel, faisant croître des nouvelles attaches. Certains sont tellement obsédés par ce qui est vu qu'ils voient comme ces papillons de nuit directement dans les flammes. Ils volent, comme des papillons de nuit, ils vont à leur propre fin. Et il dit, c'est le désir accompagné de la délectation et de la convoitise, de la délectation de ceci, de cela, le désir des désirs sensuels, le désir de l'être, le désir du non-être. Voilà ce qui arrive aux êtres qui sont comme des papillons de nuit. Il prenait beaucoup d'exemples, hein, de la vie d'antan. Et donc, cette noble vérité est à pénétrer et en la pénétrant, il y a l'abandon de l'origine de la souffrance, qui est la troisième noble vérité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis à 4h30, donc dans à peu près 40 ou 35 minutes.